Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'approche un peu de vous parce que vous êtes un peu loin. Je vous propose que l'on prie. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore, Seigneur, ce matin, te remercier pour le cadeau que tu nous fais de t'appartenir. Seigneur, on va encore te remercier ce matin pour ta venue sur la terre. On veut te remercier, Seigneur, pour ta vie, pour chaque année de ta vie passée sur cette terre, pour tout le bien que tu as fait, pour ce modèle de vie pour lequel, Seigneur, tu veux que nous vivions. Seigneur, merci parce que tu es venu nous révéler qui est Dieu, d'une manière beaucoup plus profonde, plus authentique. Seigneur, merci parce qu'une nouvelle réalité s'ouvre à celles et ceux qui te font confiance. Seigneur, merci parce que nous pouvons t'adorer en esprit, en vérité. Nous pouvons t'adorer unis au Fils, unis à l'Esprit. Nous pouvons t'adorer dans ce morceau de temple que chacun représente, dans cette pierre vivante que chacun est. Et nous pouvons t'adorer, Seigneur, aussi dans nos actes, dans notre vie de tous les jours. Alors, Seigneur, avant que nous puissions découvrir ta parole, continue, Seigneur, de travailler nos cœurs. Que ton esprit continue à nous sonder. Seigneur, merci pour ce cadeau merveilleux. Merci, Seigneur, parce que tu n'es pas resté parmi nous, parmi tes disciples, mais tu leur as dit qu'il était préférable que tu t'en ailles. Merci pour ton esprit. Merci pour la douceur de ton esprit. Merci pour la discrétion de ton esprit, qui jamais ne s'attire la gloire à lui, mais sans cesse rend gloire au Père et au Fils. Nous voulons encore, Seigneur, ce matin, choyer ta présence, bénir ton nom, te remercier pour qui tu es. Amen. Ce matin, je nous invite à nous plonger dans les Écritures et je nous invite à pouvoir simplement nous mettre à la place des disciples de l'église de Philippie où l'apôtre Paul écrit de la part de lui-même et de son fils spirituel Timothée. Nous allons lire tranquillement, du coup, dans ce premier chapitre de cette lettre aux Philippiens. Intéressant. De quelle version s'agit-il ? Second 21, probablement, tu penses ? Bon, normalement, on devrait être relatif bien avec ce que j'ai aussi, normalement. Mais je vais lire avec ce que l'on a sous les yeux. Et puis, si besoin, je ferai un petit aller-retour. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Ah. Aux responsables et aux diacres. 1910 dit aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. On va s'arrêter là pour l'instant. La part que vous prenez à l'Évangile. La part que vous prenez à l'Évangile. C'est intéressant ce terme. Et on va distinguer trois choses. Premièrement, la joie de Paul. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie. Je ne cesse d'exprimer ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. La joie de Paul, elle est relative finalement du coup à la part de ses enfants spirituels prise à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. C'est intéressant, mine de rien, de constater la joie de Paul qui n'est pas uniquement rattachée à des événements, rattachée à des circonstances, mais qui est rattachée à la croissance spirituelle de ses enfants spirituels. Ça fait du bien pour des enfants spirituels d'entendre que leur père spirituel est dans la joie en les voyant grandir, n'est-ce pas ? Quand on voit aussi dans son Église que les uns et les autres grandissent en Jésus-Christ, ça nous remplit de joie. Donc moi aussi j'ai de la joie de vous voir grandir dans le Seigneur. Je n'ai pas eu le privilège de vous enfanter dans le Seigneur comme Paul a pu enfanter dans le Seigneur cette Église, mais j'ai de la joie de vous voir grandir dans le Seigneur. Ensuite on continue. Il est parlé de la confiance en Dieu. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite, complète pour le jour de Jésus-Christ. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, Paul, il a confiance qu'il n'est pas à l'origine. Il a confiance en celui qui est à l'origine, qui a commencé l'œuvre dans celles et ceux qui lui sont confiés. Et il a confiance que celui qui a commencé cette œuvre la mènera jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il peut finalement du coup être en retrait, tranquille, tout en les encourageant régulièrement, parce que là, cette lettre, elle est quand même une belle lettre d'encouragement, mais il est tranquille, confiant que celui qui œuvre dans le secret est fidèle et qu'il amène jusqu'au bout ce qu'il a commencé. Malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré les doutes, malgré les défis, il a confiance. Il sait en qui il croit. Et il sait qui est à l'origine de ce qui était semé dans les cœurs, développé dans les cœurs. C'est-à-dire que sa joie qui était déjà intense par rapport à cette croissance, elle est aussi rattachée à la confiance qu'il a dans celui qui travaille dans les cœurs. Et enfin, le troisième point, c'est la grâce partagée, la même grâce que moi. Vous qui participez tous à la même grâce que moi, cette grâce partagée, c'est souffrir pour Christ. C'est souffrir pour Christ. C'est lui, il est en prison, il vit la persécution, et il sait que cette Église a aussi vécu des difficultés et des persécutions. Dans cet empire romain, proclamer le nom de Jésus-Christ, ça peut passer éventuellement, mais dire que c'est le seul Seigneur, alors là, ça ne passe plus du tout. Ça ne passe plus du tout. Et ils ont souffert. Mais moi, il y a un élément moi, qui m'interpelle, c'est que il leur parle de la même grâce que lui a. La même grâce. Souffrir pour Christ est une grâce. Souffrir pour Christ est une grâce, d'après l'apôtre Paul. Quand on lit le livre des Actes, on est étonné de la façon dont les disciples de Jésus sont heureux, joyeux de souffrir pour Jésus. D'un aspect extérieur, si on ne comprend pas tout ça, on a envie de se dire, mais ils ne sont pas maso un peu? Et qui aime souffrir? À part ceux qui sont un peu dérangés dans leur tête. Mais en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est derrière. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul parle de grâce dans cette souffrance? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinairement mystérieux dans cette souffrance? Avant de pouvoir répondre à cette question, j'aimerais simplement qu'ensemble on puisse réfléchir sur les manières où Christ a lui-même souffert. C'est un petit temps d'échange, si vous souhaitez participer, c'est ouvert. De quelle manière est-ce que Christ a souffert? Pardon? Le rejet. Un autre? Ah, la séparation avec son Père sur la croix. J'ai envie de réagir. J'ai envie de réagir volontairement, tu sais pourquoi? Parce que c'est... Je dois réfléchir si c'est le bon moment ou pas pour réagir sur ce sujet. C'est très intéressant, très intéressant. Je me le garde pour plus tard. C'est compliqué, mais je me le garde pour plus tard. Il a souffert face au péché qui ronge ce monde. Il a souffert en voyant ses enfants incrédules, orgueilleux, esclaves de Satan et de ses anges. Il a souffert face à l'injustice, à l'iniquité des hommes, face à la maladie et à la mort, face à la non-connaissance de Dieu. Dans son propre corps aussi, il a souffert, face à la tentation, face aux insultes, aux rejets, aux trahisons, aux coups, aux clous, à la torture, à la tristesse. Il a souffert. Et nous-mêmes, nous souffrons aussi à cause de nos péchés. Nous souffrons aussi lorsque le Seigneur travaille en nous pour nous purifier. Il y a une souffrance. Lorsque les choses que nous faisons mal, nous les arrêtons, lorsqu'on doit changer d'habitude parce que le Seigneur est en train de travailler nos cœurs, ça gratte un peu. Le chemin n'est pas toujours agréable. Mais est-ce qu'il n'y a pas au fond de nous une joie à être libérés de nos esclavages? N'y a-t-il pas une joie à être libéré de nos péchés? N'y a-t-il pas une joie à se sentir libre et purifié? N'y a-t-il pas une joie lorsque la présence du Seigneur en nous nous rend plus légers? Mais il y a aussi une autre souffrance. Nous souffrons aussi à cause de nos bien-aimés. Finalement, la souffrance que Jésus a vécue, Il l'a vécu dans son propre corps, face au péché qui l'attaquait, lui qui n'a jamais succombé à la tentation. Il était quand même tenté. Mais il a souffert aussi pour ses bien-aimés. Et nous aussi, nous souffrons aussi pour nos bien-aimés. Lorsque un parmi nous souffre, tout le corps souffre. Mais nous souffrons aussi pour les personnes qui nous sont chères et qui n'appartiennent pas encore au Seigneur. Nous souffrons aussi lorsque l'ennemi ravage nos familles. Nous souffrons aussi lorsque l'ennemi ment à nos bien-aimés. Et que nos bien-aimés acceptent les mensonges. Christ a souffert pour Dieu, par amour pour nous. Et de même, nous souffrons pour Christ, par amour pour les autres. Christ a souffert pour Dieu, par amour pour nous. Christ a souffert pour son Père, par amour pour nous. Et de même, nous souffrons pour Christ, par amour pour les autres. Et cette souffrance est un cadeau. Cette souffrance est une grâce, un cadeau. C'est le don de Dieu de nous faire participer à ses œuvres. Il aurait pu souffrir seul dans son coin pour nous, mais il nous invite à souffrir avec lui. Alors c'est un message qui peut être un peu particulier ce matin. Ce n'est pas un message qui nous encourage à souffrir pour souffrir. C'est un message qui nous encourage à souffrir par amour. Et malgré nous, nous souffrons déjà par amour. Et souvent, nous souffrons dans le silence, dans le secret. Nous portons les fardeaux et nous souffrons dans le secret. Nous avons nos prières que nous mettons devant Dieu. Mais j'aimerais mettre en lumière un petit peu cette souffrance ce matin, afin de lui donner une autre saveur. Afin que lorsque nous sommes parfois courbés, accablés, et bien que nous puissions la voir différemment, cette souffrance. Que nous puissions la voir vraiment comme un cadeau. Que nous puissions, lorsque nous souffrons pour nos frères et sœurs, que nous souffrons pour nos familles, que nous les portons devant le trône de la grâce, que nous puissions dire merci Seigneur pour le cadeau que tu me fais de pouvoir être devant toi, souffrant avec toi pour ce que tu aimes. Au verset 8, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. L'apôtre Paul aussi souffre pour ses enfants. Il a de la joie à les voir grandir, mais lorsqu'ils souffrent même, lui-même souffre. Lorsqu'ils sont dans des défis, lui-même souffre. Et il sait aussi que ces souffrances, il les vit pour eux. Suite à ça, suite à cette déclaration d'amour, de tendresse, voilà la prière. Il dit, je prie que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. J'aime bien ma petite version, donc je vais lire ma version. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. C'est magnifique, cette prière. Magnifique. Que l'amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que nous puissions discerner ce qui est essentiel. Pour le discernement des choses les meilleures. Afin que nous soyons purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ. Ce fruit de justice qui est par Jésus-Christ. qui vient par Jésus-Christ. Et toute la gloire revient à Dieu. Toute la louange revient à Dieu. L'objectif, finalement, du coup, c'est qu'on avance dans cette prière. Je veux que vous sachiez, frères, je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Donc là, c'est un encouragement. Que la souffrance n'est pas que pour la souffrance, que la souffrance contribue au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. On peut continuer. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité. Mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe, quelle sagesse de Paul, qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Sa condition, il s'en importe peu, ce qui compte pour lui, c'est que Christ soit annoncé. Que certains annoncent Christ pour que sa détention soit plus grande, tant mieux, Christ est annoncé. Je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, on va rester sur ce passage un moment. S'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Il est plus nécessaire que je demeure dans la chair à cause de vous. À cause de vous. Pour son propre intérêt, il a envie de dire « Seigneur, reprends-moi ». Mais à cause de l'amour qu'il a pour cette église, pour ses frères et sœurs, à cause de l'amour qu'il a pour cet évangile qui grandit, il dit ben, « Il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. » Tant que le Seigneur ne nous reprend pas, il est plus nécessaire pour nous de vivre ici-bas. Il est plus nécessaire parce que le Seigneur nous a confié des personnes. Donc il est plus nécessaire que je continue à œuvrer auprès des personnes que le Seigneur me confie. Si nous sommes persuadés de ça, on peut avoir la même pensée que Paul. Je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, du Christ. Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Donc là, les consignes sont claires. Même esprit, même âme pour la foi de l'évangile. Même esprit ou même cœur, selon cette version, pour la foi de l'Évangile. Avec une attention, juste après, ne vous laissez pas effrayer par les adversaires. Pour Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, de salut, et cela vient de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il nous dit, pourquoi est-ce qu'il nous encourage de ne pas nous effrayer par les adversaires ? Lorsque je laisse la peur me gagner, l'adversaire a gagné. Donc lorsque je suis dans la peur, la victoire n'est pas pour moi. Elle n'est pas pour Christ non plus. Elle est pour celui qui m'effraie. Mais lorsque je ne me laisse pas gagner par la peur, c'est une défaite pour mes adversaires. Et là, l'apôtre Paul va même préciser quelque chose de beaucoup plus, un peu plus pertinent. C'est-à-dire que la vision qu'il a, elle est même de la fin. Le fait que je n'ai pas peur face à mes adversaires, c'est un jugement annoncé pour mes adversaires. Parce que j'annonce que si je n'ai pas peur d'eux, ma victoire est à Christ. Et donc ma victoire n'est pas à eux. Ils ne seront pas gagnants. Et même le jugement viendra pour les ennemis de Dieu. C'est-à-dire qu'au final, on annonce ce qui va se passer à la fin. C'est ça, entre la foi et la peur. Lorsque je suis dans la peur, je me laisse gagner par le moment présent, par les temps de maintenant. Je me laisse gagner par ce que l'ennemi veut. Mais lorsque je ne me laisse pas gagner par la peur, et c'est un combat. C'est un combat pour nous tous. Mais lorsque je ne me laisse pas gagner par la peur, je suis en train d'annoncer que la fin de toute chose n'est pas relative à ce que je suis en train de vivre là, maintenant, au niveau des circonstances. Parce que je vive ou que je meure, Jésus reste vainqueur. Ça ne change en rien ce qui se passe à la fin. Que je vive ou que je meure. Que je souffre ou que je ne souffre pas. Est-ce que ça change que Jésus-Christ a gagné ou pas ? Ça ne change pas. Donc lorsque je ne me laisse pas gagner par la peur, je suis en train d'annoncer la victoire de Jésus. Et donc je suis en train d'annoncer également son retour, et je suis en train d'annoncer également le jugement pour les ennemis de Dieu. Peut-être que du coup, ça va faire réveiller certains des ennemis de Dieu pour que finalement, ils arrêtent d'être des ennemis de Dieu, comme nous étions aussi ennemis de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore. Donc là, on est au chapitre 2, si je n'ai pas de bêtises. Non, on est encore sur la fin. Passons désormais maintenant au chapitre 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ. Là, l'apôtre Paul, il est... C'est un rigolo quand même, l'apôtre Paul. Dans ses formulations, dans ses tournures de phrases, il fait parfois un peu de rhétorique. Il nous prend un peu à revers. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, dans l'amour, et s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Si donc il y a quelque consolation en Christ, c'est une formule rhétorique, on devrait le lire, puisqu'il y a réellement consolation en Christ, puisqu'il y a réellement soulagement dans l'amour, puisqu'il y a réellement union d'esprit. Et puisqu'il y a réellement compassion et miséricorde, et en fait, il est en train de les interpeller à ce qu'ils ont déjà vécu. Il est en train de les interpeller à une réalité à laquelle ils ont déjà goûté. Il y a Jean Chrysostome, par rapport à ce passage, qui dit que la consolation authentique vient de l'union au Christ. Et on peut résumer, finalement, du coup, ce qu'il dit un petit peu sur tout ce passage en disant, si l'amour est réel, les divisions deviennent absurdes. Parce qu'on lit ce que l'apôtre Paul dit, « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Si l'amour est réel, les divisions deviennent absurdes. Un théologien contemporain, bien apprécié par notre président d'Union RNC, N.T. Wright, dit, par rapport à ce passage, lui, il dit, mais quelque part, l'apôtre Paul est en train de leur dire, vous partagez déjà ces choses, le Christ, l'amour, l'Esprit de Dieu, la miséricorde, alors vivez selon cette réalité. Mais selon quel modèle, finalement, du coup? Et là, on le lit juste après. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Notre modèle suprême, c'est ce Messie crucifié et humilié. Alors que tous les dieux de la terre sont toujours hyper forts, hyper victorieux, ils ont tout fait, ils ont tout pouvoir, ils peuvent tout faire. Notre modèle, c'est celui qui est tout puissant, qui s'est humilié. C'est celui qui est le roi, qui s'est fait serviteur. C'est celui qui avait toute la gloire et qui est venu dans la simplicité et l'humilité. Et là, c'est un élément qui est intéressant. Et c'est un élément qui est aussi pour nous. Pour quelle raison faisons-nous ces choses? Pour quelle raison souffrons-nous? Pour quelle raison même vivons-nous? Est-ce que nous cherchons une gloire quelconque? Comme ça t'est dit aussi tout à l'heure, il peut y avoir une vaine gloire dans nos objectifs. Et dans l'Empire romain, la gloire était recherchée. Quelque part aujourd'hui encore, la gloire est recherchée. La reconnaissance est recherchée. Mais quelle gloire y a-t-il à être humilié? Quelle gloire y a-t-il à souffrir pour les autres? Quelle gloire y a-t-il à être crucifié? Ben c'est ça notre modèle. Ne cherchons pas ce qui frappe aux yeux. Ne cherchons pas ce qui semble être glorieux. Mais cherchons ce qui est caché. Cherchons ce qui est profond. Cherchons ce qui est réel. Et l'amour est réel. L'amour qui se donne est réel. Ce que Christ a fait à la croix, il n'y a rien de plus réel. Alors que tout ce que nous cherchons sur cette terre, pour nous-mêmes, pour notre gloire, c'est vain. Ça passe. Ce matin, au début, il a été parlé de toutes ces grandes personnes qui ont marché sur cette terre. Et tout est vain. Quelle gloire ont-ils ? Ils sont tous dans la tombe. On peut raconter des belles histoires sur eux. Moi-même, j'aime énormément, en fait, du coup, aller regarder un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire, les grands hommes de l'histoire. Mais au bout du compte, ils sont tous dans la tombe. Et on peut même aller sur les autres religions avec tous ces grands, soi-disant, prophètes, ces grands hommes. Mais ils sont où ? Tous dans la tombe. Oh, ils ont fait des super choses éventuellement. Par leur propre dévotion, ils sont peut-être allés jusqu'au nirvana et qu'en sais-je ? Et aujourd'hui, ils sont où ? Dans la tombe. Mais celui qui s'est dépouillé, celui qui avait tout et qui s'est dépouillé, celui qui s'est humilié, celui qui a accepté de souffrir dans le silence, alors qu'en un mot, des légions d'anges auraient pu tout décimer. Quand on voit ce qui s'est passé pendant le déluge, on se dit, oh, il aurait pu se passer ça en une fraction de seconde si Jésus l'aurait voulu. Non, il a accepté dans le silence, comme un agneau qu'on amène à l'abattoir, dans le silence, d'être humilié, rejeté, trahi. Il a accepté par amour. Et Dieu l'a élevé. Au-dessus de tout. Extraordinaire. Là où tous les grands de ce monde sont dans les caveaux, dans les tombes, où les vers les rongent, notre modèle ultime, celui qui est un scandale pour la pensée de ce monde, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. C'est ça qui devrait nous réjouir, jour après jour. Ce n'est pas la gloire que nous pouvons avoir sur cette terre. Et nous savons, et c'est notre prière, nous attendons évidemment son avènement, pour que à la fin, tout genou fléchisse devant Jésus. Mais déjà, nous commençons déjà à fléchir le genou devant lui. Parce que si on prie que la terre entière fléchisse le genou devant Jésus, mais que nous, on a encore du mal aujourd'hui. Mais le Seigneur grandit en nous. L'apôtre Paul était confiant pour les disciples de Philippi. Pourquoi n'aurions-nous pas à être confiants pour ce que le Seigneur fait dans cette Église ? Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Ça fait deux fois qu'il dit, mais continuez, même quand je ne suis pas là, continuez. Quand je suis là, c'est bien, vous êtes obéissant, mais continuez aussi quand je ne suis pas là. Est-ce que ce n'est pas simple de se gouverner soi-même ? C'est le premier endroit de gouvernance que le Seigneur nous a donné, notre propre vie. Et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Donc quand il y a quelqu'un qui nous surveille, quelqu'un qui est là avec nous, bah, ça nous aide. Mais quand la personne n'est pas là, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Ah, c'est marrant ça. Faites tout sans murmure ni hésitation, afin d'être irréprochables et purs. irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue. Combien de fois est-ce qu'on murmure ? Combien de fois est-ce que du coup on est dans l'hésitation ? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours aller bille en tête, mais parfois, il est bon de se tromper aussi. On apprend en se trompant. Moi, je suis d'une nature, parce qu'on est tous un peu différents dans notre personnalité, et moi, ma personnalité, c'est de vraiment patienter avant de faire quelque chose au cas où je veux me tromper, parce que j'ai pas envie de me tromper, je déteste ça. Mais il y en a, on se pose pas la question, quoi. Ça fonce tout droit, ça se prend un mur, ça se relève, ça refonce tout droit, ça reprend le même mur, ça se relève, ça refonce encore tout droit, ça se reprend encore le même mur, et là, du coup, là ils réfléchissent, alors peut-être qu'il faudrait que je passe à côté. Mais ils ont appris, et parfois plus vite que moi, qui, moi, prend le temps de regarder, est-ce que vraiment c'est un mur, est-ce que vraiment peut-être, est-ce que si je fonce dedans à la vitesse, x égale plus, machin. Mais c'est important. Alors, comment est-ce qu'on arrive à ne plus hésiter ? Qu'est-ce qui fait la marque de celui qui vit dans une vie nouvelle avec le Seigneur ? C'est l'Esprit de Christ en nous. Et si on est convaincu, du coup, l'hésitation, elle est plus difficile. C'est pour ça que c'est important de marcher par conviction. Quand nous marchons par conviction, nous ne péchons pas. Et si nous péchons, nous pouvons revenir au trône de la grâce. Le Seigneur est juste et bon pour nous pardonner. Ce n'est pas la merveilleuse école d'apprentissage, de marcher avec le Seigneur. Nous ne voyons pas tout, nous sommes parfois un peu avec comme un voile. Nous aimerions en fait du coup voir à travers ce voile, mais le Seigneur a permis que nous continuions à marcher pour que nous puissions développer notre relation avec lui malgré le fait qu'on ne voit pas tout. C'est trop beau. Alors c'est pénible parce que ça veut dire qu'on va peut-être faire des gaffes. C'est pénible pour moi, après peut-être que pour vous, peut-être qu'il n'y a pas de problème, peut-être que vous aimez vous tromper, moi je ne supporte pas ça. Mais non, mais et un encouragement extraordinaire. On peut marcher jour après jour, le Seigneur a promis de ne pas nous abandonner. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vous envoie mon esprit pour que vous puissiez marcher. Il va vous conduire dans toute la vérité. Si vous ne savez pas quoi dire, il vous inspirera. N'ayez pas peur. C'est quand même extraordinaire. On aurait pu se dire, mais la meilleure chose que le Seigneur aurait pu faire pour nous, c'est d'établir son royaume une bonne fois pour toutes et puis terminer. Comme ça, au moins, on ne va pas se tromper. Non, la meilleure chose que le Seigneur a jugé de nous donner, eh ben, c'est son esprit. C'est quand même extraordinaire. Je vous laisse méditer là-dessus. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travailler en vain. Paul attribue sa course à la croissance de ceux que le Seigneur lui a confiés et du rayonnement de pureté au milieu de cette génération. C'est fort ça quand même. Je pourrais alors être fier le jour de Christ de n'avoir pas couru ni travaillé pour rien. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi. Ouh, intéressant la version second 21. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi. Alors là, ça fait référence à ce qui se passait dans l'Ancien Testament, où lorsqu'il y avait un sacrifice qui était porté, il y avait une libation. Et souvent, c'était du vin ou une boisson qui était versée sur le sacrifice. Le sacrifice, c'est le sacrifice. C'est l'animal qui a été tué, c'est le sacrifice. La libation, ce n'est pas un sacrifice en tant que tel. Mais c'est quelque chose qui vient attester du sacrifice. Et en même temps, c'est quelque chose qui est offert. On ne peut plus le récupérer. Lorsqu'on versait du vin, dans Nombre, on peut lire ça, quand on versait du vin sur l'Holocauste, est-ce qu'on peut récupérer le vin qui a été versé ? On ne peut pas le récupérer. Eh bien, l'apôtre Paul parle de son sang qui doit couler, non pas comme un sacrifice, mais comme cette chose en plus qui vient juste authentifier du sacrifice réel de ses disciples. C'est costaud quand même. Hein ? L'humilité de l'apôtre Paul, qui ne considère pas sa vie comme étant un sacrifice, mais simplement une libation sur le sacrifice et le service de la foi de ses enfants spirituels. Le sacrifice offert à Dieu, c'est la foi des Philippiens. Et là, le mot service, c'est le mot liturgie, c'est le mot culte. Il leur dit, pour le sacrifice de votre foi et le culte de votre foi. Ça veut dire que c'est aussi une action, une mise en action de la foi. S'il y a un service, s'il y a un culte, c'est extraordinaire. Ils considèrent que la foi mise en action, c'est ça le sacrifice. Et il est en train, en fait, du coup, de les honorer sur ce qu'ils ont déjà commencé à faire par la foi. Il ne se met pas en avant, il se met en retrait, et que, comme si sa propre vie venait authentifier leur propre foi et le sacrifice qu'ils offrent à Dieu par leur propre vie. Et il le dit, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Magnifique. Magnifique. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. C'est fou. C'est fou. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve, en parlant du coup de Timothée, en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. Je n'ai personne qui partage mes sentiments. Tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Christ. Quand nous portons des fardeaux, c'est parfois difficile de trouver des personnes qui partagent également notre fardeau. Quand nous portons des personnes dans notre cœur, que nous prions pour eux, ben c'est pas simple de trouver des personnes qui partagent le même fardeau que nous avons aussi pour eux. Mais en Christ, il y a une loi nouvelle qui nous a enseigné. Dans Galates 2, portez les fardeaux les uns des autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Ce n'est pas uniquement porter les difficultés que nous rencontrons, les défis, etc., mais c'est aussi porter les fardeaux de cœur. Lorsque du coup, je pleure pour quelqu'un parce que cette personne vit des difficultés ou est éloignée de Dieu, ben, je peux avoir mon frère, ma sœur qui peut aussi prier avec moi, porter avec moi ce fardeau. Donc il y a les deux, à la fois lorsque moi-même je vis quelque chose de difficile, vous pouvez porter avec moi. Mais aussi lorsque je porte pour quelqu'un d'autre, vous pouvez aussi porter avec moi. Et si je vais jusqu'au bout, si moi je vis des choses difficiles, et qu'Isabelle par exemple du coup porte avec moi la chose difficile que je vis, vous pouvez aussi porter avec Isabelle le fardeau qu'elle porte à cause de moi. En fait c'est sans fin. La loi de Christ, elle est sans fin. C'est beau, c'est de l'amour qui se multiplie. À la fin, personne ne peut dire bah, « moi, j'ai rien à faire ». On est tous appelés à porter les fardeaux les uns des autres. Tous appelés à chercher les intérêts de l'autre. C'est extraordinaire. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins, car il désirait vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il était malade en effet et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. C'est beau ça aussi. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Chapitre numéro 3. Ce matin, on plonge dedans. Au reste, mes frères, ou maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. Oh, je préfère ma version. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous cela est salutaire. Réjouissez-vous dans le Seigneur. On a vu quand même tous ces chapitres avant, enfin il y en a deux, mais c'est quand même très riche, jusqu'à maintenant où il leur dit, je vous le répète encore, je ne fais que me répéter, je suis désolé. Marrant, cette lettre aux Philippiens, et Philippe qui nous parle de la joie. Passons. Je ne cesse de le répéter, dit Paul, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire encore les mêmes choses. Cela contribue à votre salut. C'est salutaire pour vous que vous vous réjouissez dans le Seigneur. C'est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Prenez garde des chiens. Les chiens, dans la mentalité hébraïque, c'était les païens. Eh bien, ceux qui refusent le salut aux païens deviennent eux-mêmes des païens, ils deviennent des chiens. Lorsque nous privons les autres de la grâce de Dieu, offerte en Jésus-Christ, nous sommes des chiens. Prenez garde des chiens. Bon, déjà pour moi-même, c'est attention à ce que je ne sois pas un chien. Mais que je prenne garde aussi, du coup, à ceux qui le sont malgré eux. Prenez garde aussi aux mauvais ouvriers. Le mot mauvais ouvrier, c'est le mot destructeur. Donc prenez garde à ceux qui sont internes à l'Église, internes au corps de Christ, et qui détruisent l'unité de l'Évangile. C'est fort. Attention à ceux qui détruisent l'unité de l'Évangile. Et puis prenez garde aux faux circoncis. Alors là, il y a un jeu de mots. Vous ne pouvez pas le savoir. Je ne lis pas le grec, je ne pouvais pas le savoir. Mais en fait, il y a un jeu de mots. Parce que le mot faux circoncis fait référence à une mutilation. Quelque part, il est en train de dire, faites gaffe aux mutilés. Prenez garde aux mutilés. Et il le dit après, car les circoncis, c'est nous. Ah, exactement, circoncis de cœur. Circoncis de chair, ça ne vaut rien. Alors que la vraie circoncision est celle du cœur. Et pour justifier ce qu'il est en train de dire, il continue. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, si je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Et quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais son pédigré, là, l'apôtre Paul. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Tout ce qui fait éventuellement ta gloire, même si tu n'as rien demandé parce que tu es né au bon endroit, même si tu étais un bon élève dans tout ce qu'on t'a enseigné, comment est-ce que tu les regardes ? L'apôtre Paul, il dit, ben, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Notre gloire n'est pas dans ce que nous sommes au niveau de lieu de notre naissance, de ce que nous avons eu comme connaissance, notre parcours professionnel, notre parcours intellectuel. Notre gloire, elle est en Christ et en ce qu'il accomplit. En ce qu'il a accompli et ce qu'il accomplit encore, et ce qu'il accomplira. Est-ce que parfois, je n'ai pas tendance aussi à me glorifier dans ce qui devrait être de la boue à mes propres yeux ? Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans la mort, dans sa mort, pardon, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Le but pour Paul, c'est connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Connaître Christ, ça nous parle d'une relation profonde, une relation authentique, profonde. Ce n'est pas simplement des connaissances intellectuelles, c'est une connaissance profonde de la personne de Christ. C'est une relation qui se nourrit jour après jour. Le deuxième, la puissance de sa résurrection, c'est ma transformation morale et spirituelle, déjà commencée chez moi, si j'ai cru, si j'ai commencé à mettre ma foi en Jésus. Il y a déjà une transformation qui a commencé. Et donc je peux découvrir ce que c'est que la puissance de sa résurrection dans ce qu'il est en train de travailler en moi. Parce que la puissance de sa résurrection, c'est la vie nouvelle offerte pour chacun. Et si ma vie, elle n'est pas excitante, si ma vie est fade, peut-être que je n'ai pas compris ce que c'était que la vraie vie nouvelle en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas grave. Il n'est pas trop tard. Le Seigneur peut encore me le révéler. Je dirais même, il n'attend que ça. Et il n'attend que ça aussi pour me faire grandir dans cette réalité. Parce que quand bien même je l'aurais découverte, quand bien même j'aurais commencé à rentrer dedans, je ne suis pas encore au bout. Et le Seigneur prend plaisir à nous faire grandir dans cette réalité. Et la communion de ses souffrances, c'est cette fidélité malgré les conséquences douloureuses. C'est être obéissant jusqu'au bout, à la ressemblance de Christ, obéissant jusqu'à sa propre mort à la croix. Là, il est en train de dire, j'aimerais être obéissant comme Christ. J'aimerais être obéissant comme Christ. Mais il y a aussi des références croisées qui nous aident à comprendre aussi ce qu'il est en train de dire. Dans Colossiens, il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Jésus continue de souffrir. Nous sommes le corps de Christ. Jésus continue de souffrir. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Ou encore dans 1 Pierre 4, l'apôtre Pierre qui dit « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous aussi soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Nous participons, c'est un cadeau encore une fois que le Seigneur nous fait, de participer à ses souffrances. C'est notre rôle en tant que sacrificateur. Nous ne sommes pas plus grands que le maître. Nous ne sommes pas plus grands que le maître. Notre rôle, c'est d'être à la suite du maître. On ne souffre pas pour souffrir, mais on souffre parce que les choses naturellement sont faites pour que nous souffrions aussi dans ce monde, à cause de Christ, à cause de son amour, à cause de l'amour de Dieu pour ce monde. L'apôtre Paul qui dit aux Corinthiens, « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » Ah ! Ouf ! Même si je souffre, même si j'ai les souffrances de Christ qui abondent en nous, la consolation abonde par Christ. Ma consolation est liée à mon union à Christ. Si je crois dans le Seigneur Jésus, la souffrance ne s'arrête pas. Le péché, oui. Mais la souffrance ne s'arrête pas. Parce que j'arrête de souffrir pour moi-même et je commence à souffrir pour les autres. Je souffre toujours un peu en moi-même afin de ressembler à Christ. Mais à mesure que je ressemble à Christ, je souffre aussi pour les autres parce que Christ souffre pour les autres. Mais ma consolation, elle est en Christ. Il dit également aux Romains, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Et là, quelle est notre perspective ? J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Ça, c'est notre objectif. Ça, c'est la vision d'en haut. La gloire qui va être révélée, elle est tellement grande, tellement extraordinaire, que les souffrances que je vis au moment présent, même pas dignes d'être comparées. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, dit Paul, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'étais saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Je cours, et si je fais le lien avec ce qu'il avait dit avant, l'apôtre Paul court pour saisir Christ, et il court pour faire croître ceux que Christ lui a confiés. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. L'encouragement pour nous tous, c'est de continuer à être fidèles, à persévérer. Il y a des larmes lorsqu'on pense à ceux qui ont abandonné. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui leur fait honte. Pardon, dans ce qui fait leur honte. Et non. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et là, c'est une alerte pour moi, une alerte pour nous. Est-ce que j'ai, comme au temps de Paul, des choses dans le monde qui me dominent. Et est-ce qu'à cause d'elles, j'en ai perdu de vue le royaume de Dieu ? Est-ce que je suis soumis encore à mes passions, à mes désirs ? Est-ce que les choses de la terre m'obsèdent ? Ou est-ce que, comme il est dit après, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez aussi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Vous qui êtes ma joie, vous qui êtes ma couronne. Et je vais terminer là-dessus. Notre récompense, ce sont les personnes que le Seigneur nous a confiées. Notre récompense, c'est déjà Christ lui-même, mais c'est les personnes que le Seigneur nous a confiées. C'est un encouragement à chacun de se poser la question, comment est-ce que je m'investis pour ceux que le Seigneur m'a confiés ? Ça commence évidemment par notre propre famille. Mais si je regarde un peu plus loin, j'en ai d'autres aussi autour de moi. Comment est-ce que je prends soin de ceux que le Seigneur m'a confiés ? Car ils sont ma couronne. Ils sont ma couronne éternelle. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Et les pères sont la gloire de leurs enfants. Donc on pourrait même dire que dans une pensée, dans la pensée de Dieu, c'est même les enfants de nos enfants spirituels, peut-être. Notre cœur doit être de transmettre pour qu'eux-mêmes transmettent. Notre cœur doit être de faire croître, non pas pour eux-mêmes, mais pour qu'eux-mêmes fassent croître d'autres. Comment est-ce que j'investis ? Comment est-ce que je lève les personnes que le Seigneur m'a confiées ? Comment est-ce que je les encourage à marcher avec persévérance, mais aussi avec responsabilité ? Comment est-ce que je les encourage ? Comment est-ce que j'investis en eux ? Verset 4, il va dire « Réjouissez-vous tous dans le Seigneur, toujours, je le répète, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien. Et en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Il y a un encouragement à vivre dans le contentement. Parce qu'il va même le dire après, en disant qu'il a appris à vivre content de l'état où il se trouve. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et la clé, il l'a dit après, je puis tout par celui qui me fortifie. J'avais encore quelques notes à vous dire, mais je vois l'heure qui tourne. Ma force ne dépend pas des circonstances. Ma force ne dépend pas des circonstances, mais elle dépend de mon Créateur, mon Rocher, mon Sauveur et Seigneur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a un encouragement, et là je vais simplement résumer. Souffrir pour et avec Christ est un cadeau. Pour ma purification intérieure, mais aussi pour mon intercession et mes actions d'amour. Ma récompense, ma couronne, c'est Christ lui-même, mais c'est aussi ceux qu'il m'a confiés. Ne nous laissons pas ni effrayés par nos adversaires, ni avoir par ceux qui œuvrent contre Christ est l'unité, la puissance de la bonne nouvelle de Jésus. Alors nous qui avons été consolés en Christ, nous qui avons été soulagés dans l'amour reçu dans le corps de Christ, nous qui avons été unis au Saint-Esprit, nous qui avons déjà reçu miséricorde et compassion, agissons selon toutes ces choses, en ayant un même sentiment, une même âme, un même amour, une même pensée. Et enfin, et on le répète encore, réjouissons-nous dans le Seigneur, en vivant attachés à lui et en vivant dans le contentement. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Amen.